Europe Soir,
le 18-20.
Isabelle Mieux.
Merci à vous d'écouter Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec, dans un instant, le journal de Christophe Lamarre. Toute l'info décryptée par la rédaction d'Europe 1. À 19h10, Thierry Sausset viendra nous livrer sa carte blanche. On parlera de l'abstention, fait marquant du premier tour des régionales. Vous le savez, il a des propositions pour régénérer la démocratie. Vaste programme. Et puis à partir de 19h20, on débattra autour d'un sujet aussi passionnant que mystérieux. Les phénomènes aériens non identifiés. Les ovnis, si vous préférez, qui intriguent jusqu'au Pentagone, qui a étudié ces phénomènes de près et qui publie un rapport vraiment troublant avec des vidéos réalisées par des pilotes de l'US Navy. Ce rapport va être présenté au Congrès américain demain. Alors, petits hommes verts ou technologie ultra secrète, pour le savoir, rendez-vous d'ici 20 minutes avec mes invités qui ne sont pas des illuminés, hein, je vous rassure, mais bien des spécialistes du sujet qui vous diront ce qu'ils pensent de ce rapport. Ça, c'est pour tout à l'heure. D'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
Nous sommes à un grand tournant historique dans cette affaire. Parce que ça fait 30 ans que mon client souffre. Un innocent, aujourd'hui, se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence.
30 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, le combat d'Omar Radat pour prouver son innocence peut être relancé. Son avocate affirme disposer de preuves scientifiques pouvant conduire un procès en révision.
Le variant Delta met les Landes sous pression. Le Premier ministre annonce un plan de 7 jours pour le département.
Les élections régionales en PACA, Nicolas Sarkozy sort de sa réserve et appelle à voter pour Renaud Muselier dimanche à l'occasion du second tour.
Faites donc taire ce média qui ne pense pas comme nous. À Hong Kong, Pékin obtient la fermeture du dernier quotidien libre. Ce sera l'œil de Didier François dans un instant.
C'est une règle effacée et ça va tout changer. L'UEFA jette au panier l'avantage du but marqué à l'extérieur.
La météo, Laurent Cabrol, en un mot pour demain.
C'est une journée de transition, une journée de répit où nous aurons des éclaircies, mais malheureusement ces éclaircies ne vont pas durer bien longtemps. Donc profitons-en.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'affaire Omar Radat va-t-elle connaître un nouveau rebondissement 30 ans, jour pour jour, après les faits? On se souvient que le jardinier avait d'abord été condamné pour l'assassinat de Ghislaine Marchal. Il a retrouvé la liberté après une grâce partielle du président Jacques Chirac, mais le jardinier n'a toujours pas été blanchi dans cette affaire.
En tout cas, il n'a jamais cessé de clamer son innocence et une nouvelle expertise ADN pourrait l'y aider. Son avocate vient en effet de déposer une requête pour demander une révision de sa condamnation, Justin Morin.
Oui, moment solennel ce midi devant le grand portail du palais de justice. L'avocate Sylvie Noakovitch, entourée de l'académicien Jean-Marie Rouard, de l'ancien député Georges Fenech et d'autres, tous ici pour rappeler leur engagement en faveur d'Omar Radat. Au centre, son avocate transporte un énorme dossier qu'elle a déposé au magistrat de la cour de révision.
Nous sommes à un grand tournant historique dans cette affaire. Parce que ça fait 30 ans que mon client souffre. 30 ans qu'une femme aussi a été tuée dans des conditions extrêmement sauvages. Un innocent aujourd'hui se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence. Omar Radat, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il est là avec moi en pensée. Il attend énormément, énormément de ce procès en révision. Les éléments nouveaux que j'apporte sont essentiels.
Ces éléments nouveaux dont parle l'avocate datent en fait de nouvelles analyses. Sur l'une des deux portes où les inscriptions en lettres de sang ont été retrouvées, 35 traces d'un ADN masculin ont été découvertes. Et selon l'expert qui a rédigé le rapport, il y a peu de chances pour qu'il s'agisse de pollution, c'est-à-dire d'un ADN laissé par les enquêteurs par exemple. Lui favorise l'hypothèse d'un dépôt au moment des faits et donc l'existence d'un potentiel nouveau suspect. Maître Sylvie Noakovitch appelle à ce que tous les moyens soient utilisés pour découvrir à qui correspond ce nouvel ADN. Cela pourrait déboucher sur un nouveau procès afin qu'Omar Radat soit enfin innocenté.
Affaire passionnante en tout cas. Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. À Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche est peut-être relancée.
Des ossements pouvant être d'origine humaine, des morceaux de vêtements ont été découverts à moins d'un kilomètre du domicile où l'adolescent a disparu en mars 2015. Des examens médico-légaux et si possible génétiques vont être pratiqués dans les prochains jours.
Le variant Delta pourrait représenter jusqu'à 90% des nouveaux cas d'infection en Europe. En France, un département est déjà sous surveillance.
Oui, Jean Castex s'est rendu dans les Landes où le variant prolifère. Le Premier ministre annonce un plan d'action sur 7 jours.
On a constaté une reprise de l'épidémie. Le taux d'incidence a redépassé le seuil de 50 pour 100 000 habitants récemment. Et on a identifié, certes en nombre limité, mais en nombre suffisant pour que cela nous mobilise, la présence de ce variant Delta. Donc la situation des Landes, il ne faudrait pas qu'elle préfigure le développement de ce variant. C'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre en place toutes les actions nécessaires.
Les élections régionales en PACA, le duel entre Renaud Muselier et Thierry Mariani s'annonce serré.
Et dans ces conditions, tous les soutiens comptent. Dernier en date, celui du candidat écologiste Jean-Marc Governatori, éliminé au premier tour avec moins de 10% des voix. Il appelle à voter Muselier.
Mais le soutien le plus important, c'est sans doute celui, Christophe, de Nicolas Sarkozy. Dans une interview à Nice ce matin, l'ancien président demande aux électeurs de voter Muselier, Aurélie Herbemont.
Oui, Nicolas Sarkozy sort de sa toute relative retraite politique pour voler au secours de Renaud Muselier. « J'ai choisi de faire une exception pour la région PACA », dit l'ancien président, « parce que je suis inquiet de la situation ». Un sondage donne aujourd'hui 51-49 pour le président LR sortant face au candidat RN. Autant dire qu'on est dans la marge d'erreur et qu'il est bien difficile d'anticiper qui va l'emporter dimanche. Les amis doivent se manifester dans les moments moins faciles. « C'est ce que je fais », explique l'ancien chef de l'État, et d'appeler à la raison les élus de droite qui ont refusé de soutenir Renaud Muselier au premier tour à cause de l'accord avec En Marche. « Si Renaud perd, vous perdrez tous », prévient Nicolas Sarkozy. Au passage, il égratigne son ancien ministre, Thierry Mariani, passé dans le camp Le Pen. La trahison des engagements, c'est lui. Bref, Nicolas Sarkozy fait le job, comme on dit, pour soutenir Renaud Muselier, mais sans aller jusqu'à faire un déplacement à ses côtés, car dimanche, le candidat de la droite devra aussi pouvoir compter sur les voix de la gauche et des écologistes.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. La question du comportement des abstentionnistes interroge la classe politique et les sondeurs. On a peut-être un élément de réponse.
Oui, 36% des Français se disent prêts à aller voter dimanche. Résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche et à la question portant sur les moyens de lutter contre l'abstention. 59% des sondés se déclarent opposés au vote obligatoire.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Pensez comme nous ou disparaissez. Pékin fait fermer le dernier journal libre d'Hong Kong.
Et puis l'UEFA dit stop à la règle du but marqué à l'extérieur dans ses compétitions.
A tout de suite. 19h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et il y avait du monde devant les kiosques à journaux de Hong Kong. File d'attente interminable, malgré la pluie battante, pour s'arracher le dernier numéro d'Apple Daily. C'est le dernier quotidien indépendant de la péninsule.
Oui, il a dû mettre la clé sous la porte face au harcèlement des autorités chinoises. On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ça fait plaisir de vous retrouver. Cette fois, Pékin a obtenu la fermeture définitive du dernier média qui osait critiquer le Parti communiste.
Oui, avec cette une terrible, la photo d'un journaliste dans sa salle de rédaction ravagée par la police, et ce titre en forme d'oraison funèbre qui couvre toute la première page. L'Apple Daily est mort. Donc c'est effrayant, on assiste en direct à l'assassinat d'un journal broyé par la machine répressive chinoise, et pas n'importe lequel, parce que l'Apple Daily, c'était une véritable institution à Hong Kong qui, maintenant, depuis 26 ans, trônait sur la table du petit déjeuner dans de très nombreuses familles de la péninsule. 500 000 lecteurs chaque jour, c'est énorme pour une petite province de 7 millions d'habitants seulement, mais parce que ce journal était extrêmement populaire en format tabloïd, avec des articles courts, percutants, des photos couleurs, des faits divers évidemment, mais aussi une très grande vitalité de débat, une information pluraliste et puis surtout une véritable impertinence vis-à-vis de Pékin. Et c'est cela que paye aujourd'hui ce journal, le fait d'être devenu un symbole de l'autonomie hongkongaise, une indépendance de ton tout à fait inexistante en Chine continentale, où sa diffusion a d'ailleurs toujours été interdite, puisque seule la presse communiste, officielle, étatique, en bref, les organes de propagande du parti y ont droit de citer, il ne faut jamais l'oublier.
Et il n'y avait pas moyen de résister, hein, Didier.
Eh bien écoutez, les journalistes ont tout tenté et se sont battus jusqu'au bout, mais la lutte était trop inégale face au rouleau compresseur de l'appareil sécuritaire chinois. D'abord, tous les actifs du journal ont été gelés, à commencer par ses comptes en banque, ce qui fait que les salaires et les imprimeurs ne pouvaient plus être payés. Ensuite, le fondateur du journal, Jimmy Lai, croupi dans une geôle depuis le mois d'août 2020 et encourt une peine de perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. La semaine dernière, ce sont plus de 500 agents de la police politique chinoise qui ont mené une perquisition dans la rédaction du quotidien, confisquant les ordinateurs et arrêtant 5 rédacteurs en chef qui sont accusés de sédition en collusion avec des puissances étrangères et risquent donc également la prison à vie. Et puis enfin, le pouvoir communiste menace de lancer des poursuites sous les mêmes chefs d'inculpation contre les journalistes, mais aussi contre les abonnés de l'Apple Daily, ce qui vise évidemment à décourager toute velléité de résistance. C'est une véritable chape de plomb chinoise qui s'abat sur Hong Kong pour étouffer ces derniers foyers de liberté d'expression.
En effet, l'œil de Didier François, spécialiste des affaires internationales, tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci à vous Didier.
Merci.
La France épinglée par le Conseil de l'Europe pour la gestion de ses détenus dans les prisons et pour les conditions de détention.
Surpopulation carcérale, mauvaise prise en charge des détenus nécessitant des soins en psychiatrie, faute de place. Le rapport du Conseil européen fait part de sa vive préoccupation et pointe également la situation dans certains commissariats où quelques gardés à vue sont l'objet d'insultes racistes pour les uns et parfois de coups pour les autres.
Natixis condamné à une amende pour avoir trompé ses actionnaires pendant la crise des subprimes.
La banque avait caché son exposition sur les produits dérivés très risqués qui ont provoqué l'effondrement des places financières mondiales en 2008. Natixis devra payer 7,5 millions d'euros d'amende et verser aux victimes 3 euros d'indemnité par action détenue.
Et puis on voulait vous parler aussi de cette petite révolution, Christophe, dans le monde du foot, l'UEFA qui veut supprimer l'avantage du but à l'extérieur dans les compétitions.
Et la fameuse règle qui a souvent donné des soirées européennes pleines de suspense, et parfois provoqué des maux de tête aussi, il faut bien le dire, l'UEFA a décidé de la supprimer en Coupe d'Europe dès la saison prochaine, celle qui va commencer en août. Mais Simon Rubin, si cette règle n'existe plus, on fait comment ?
Eh bien, à la place, on aura droit à des prolongations suivies de tirs au but. Par exemple, cette saison, le PSG a éliminé le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Grâce à la fameuse règle du but à l'extérieur, Paris gagne avec un but d'écart à Munich, puis perd avec un but d'écart à domicile, mais en ayant marqué 3 buts en Allemagne contre un seul pour les Allemands en France. Alors, sans cette règle, eh bien, un tel scénario aurait conduit à des prolongations. Alors, selon l'UEFA, cette règle du but à l'extérieur, elle bride les équipes qui reçoivent, les incitant à prendre le moins de risques possible et donc in fine tuerait le spectacle. C'est assez discutable et certains fans de football regrettent déjà cette règle introduite en 1965. Alors il faut y voir une tentative de plus pour moderniser le football européen. Rappelons que cette sacro-sainte règle du but à l'extérieur, cela fait des années qu'on parle de la supprimer. Cette fois, l'UEFA est donc passée à l'acte. Avec, dit son président, la volonté de renforcer aussi l'équité de la compétition. Désormais, peu importe le nombre de buts marqué, c'est l'équipe qui gagnera sur la somme des deux matchs, qui sera qualifiée. Au moins, ça a le mérite d'être simple.
C'est exactement ça, ça a le mérite d'être simple. On va arrêter les calculs. Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1.
Dans votre journal, Christophe Lamar. Merci Christophe, on vous dit à demain. Laurent Cabrol, Demain donc, journée de répit et de transition.
Exact, journée de répit avec des éclaircies. Vous serez très heureux de voir ce soleil sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Massif central, le Poitou-Charentes et tout le sud-ouest, ainsi que la région Rhône-Alpes. Il y aura quelques averses encore sur l'Alsace, mais ce sont les dernières. Et puis il fera très beau près de la Méditerranée, malheureusement du vent. Mistral et Tramontane vont souffler autour de 60 à 70 km/h. Et puis il y a quand même une petite réserve à installer sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, puisque là nous verrons apparaître dès le matin des petites pluies qui, dans le courant de l'après-midi et de la soirée, vont gagner les pays de la Loire, le centre, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes. Donc sur Paris, profitez de votre matinée surtout et une partie de l'après-midi. Mais dans l'ensemble, vous le voyez, donc le soleil ne durera pas. Le mauvais temps, ou en quelque sorte ce temps très humide, eh bien sera celui que nous aurons samedi et dimanche et une partie de la semaine prochaine.
Bon, on aura le temps d'en reparler avec vous, malheureusement. Merci beaucoup Laurent Cabrol, on vous souhaite une excellente soirée. Merci Laurent.
Merci.
19h14, dans un instant, votre grand débat sur Europe 1, quand les pilotes de l'US Navy relancent le mystère des objets volants non identifiés. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un petit, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et c'est Thierry Sausset qui nous fait le plaisir ce soir d'être avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci. Alors vous êtes conseiller en communication, Thierry Sausset, et vous voulez revenir ce soir sur l'abstention historique qui a marqué ce premier tour des élections régionales. Aujourd'hui, hormis pour la présidentielle, c'est très difficile, on le voit bien, de mobiliser les électeurs. Pour quelles raisons, selon vous ?
Bah écoutez, un phénomène sociologique ou politique, il y a toujours plusieurs explications. Donc là, on a connu les contraintes de la pandémie, l'exploitation hasardeuse des sondages par les médias qui donnaient le sentiment que les jeux étaient faits d'avance, la banalisation du Rassemblement national qui a démobilisé ses électeurs, l'ignorance de savoir à quoi sert par exemple un conseiller départemental. Et puis, c'est le sujet de ma réflexion du jour, cette petite chose qui peut-être est faite pour éclairer normalement les électeurs, pour les mobiliser, pour leur dire qu'il y a un scrutin qui s'appelle la campagne électorale et dont on a le sentiment qu'elle a complètement disparu du paysage.
Ah oui, à ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous dénoncez effectivement le fait qu'il n'y ait plus de campagne électorale, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est grave, ça, qu'il n'y ait plus de campagne électorale quand même.
Oui, bien entendu. C'est-à-dire, vous savez, le législateur, il a voulu éviter les financements illicites. Alors, du coup, il a diminué les plafonds, il a interdit un certain nombre de moyens. Et donc, il a eu le sentiment, quelque part, que le plus sûr moyen de paraître honnête, c'était de faire pauvre. Et en réalité, il n'y a plus, aujourd'hui, du fait de la loi, les moyens de faire campagne. Donc, vous avez quelques affichettes par-ci, par-là, sur des panneaux, une réunion de préaux d'école. Si ça continue comme ça, il y aura bientôt plus de militants. Et la campagne électorale se terminera sur les réseaux sociaux et dans les médias dont la vocation n'est pas de faire la pédagogie de ce que c'est qu'une collectivité locale, de ce que c'est qu'un conseiller départemental, parce que vous n'en avez d'ailleurs ni le temps, ni la mission. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut réaugmenter un petit peu les plafonds de dépenses. Vous savez, si je prends une région au hasard, allez, je prends PACA, hein, 3,4 millions d'électeurs, 1,8 million d'euros de campagne et 3,4 millions d'électeurs, 0,60 par électeur. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le prix de la démocratie. C'est-à-dire, elle est soldée. C'est-à-dire que les candidats n'ont pas les moyens de faire campagne. Et donc, je pense qu'un euro, allez, franchement, par électeur, ça pourrait permettre, au fond, de lever en même temps les interdictions, parce que le législateur a été vicieux. Non seulement il a plafonné les dépenses, mais il a interdit des moyens, comme s'il avait le sentiment qu'on n'allait pas respecter la réglementation. Et donc permettre à nouveau l'affichage commercial, que des affiches soient dans la rue pour montrer qu'il y a une campagne électorale, que les candidats puissent acheter des encarts dans les journaux, notamment dans la presse quotidienne régionale, alors que les gens qui m'écoutent ne le savent pas. Mais tout ça est aujourd'hui interdit.
Ah oui.
Et donc lever des interdictions qui n'ont pas de sens. Et en échange, oui, développer les moyens de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne. J'y vois pas d'inconvénient. Puis enfin, moderniser ce qu'on appelle encore incroyablement aujourd'hui la propagande officielle. Vous savez, ces tonneaux de papier, de profession de foi, de bulletins de vote, qui arrivent, qui coûtent des centaines de millions
et
d'euros.
Et qu'on jette à la poubelle souvent sans les lire.
Qui arrivent chez les électeurs. Est-ce qu'il faut faire seulement un envoi par foyer? Est-ce qu'on peut moderniser, de faire un guide des candidats numériques au lieu d'envoyer les professions de foi? Bref, il faut régénérer tout cela, parce que sinon, franchement, l'abstention va continuer à augmenter.
On rappelle, Thierry Saucet, que vous êtes l'ancien patron de la communication du gouvernement. Donc, vous proposez aujourd'hui de doter le service d'information du gouvernement d'un fonds spécial, c'est ça?
Oui, franchement, je pense que vous avez besoin systématiquement de faire une grande campagne de mobilisation civique avant chaque élection. Et quand ce sont des élections territoriales, sur les gens ne connaissent pas très bien, par exemple, ce qu'est un conseiller départemental, faire en plus une grande campagne de communication multimédia, oui, je pense à vous aussi, hein, pour éclairer les gens sur ça sert à quoi un conseil départemental et ça sert à quoi un conseiller départemental. Franchement, je pense qu'il faut revoir ce paysage, parce que la disparition des campagnes électorales, ça nous manque. Moi, j'ai connu la grande époque. Alors bon, c'est vrai que les moyens n'étaient pas plafonnés. Mais ça nous manque parce que ça faisait vivre la démocratie et ça impliquait les électeurs.
Et ça engendre donc peut-être cette abstention dont on a été effectivement les témoins lors de ce premier tour des régionales. C'était la carte blanche ce soir de Thierry Saucet. Merci beaucoup à
Merci
vous.
Merci à vous.
Merci, à très bientôt.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, les ovnis, fantasmes ou réalité. Il y a du nouveau sur le sujet, un très sérieux rapport du Pentagone. À tout de suite. 19h21, c'est l'heure de votre débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui a donné lieu par le passé à toutes sortes de théories fantaisistes. Les ovnis, les objets volants non identifiés. Vous aurez sans doute reconnu le générique de la série Les Envahisseurs. C'est toute mon adolescence, mais je vous rassure, hein, on ne va pas parler d'envahisseurs ce soir. Si on a choisi d'évoquer ce sujet, c'est parce que la très sérieuse NASA a annoncé récemment qu'elle allait lancer une mission d'enquête sur les ovnis. Et on s'est dit que si la NASA s'y intéressait, c'est qu'il y avait sans doute des choses à découvrir et à apprendre. Mes invités sont là pour nous éclairer. Philippe Baumard, professeur au CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers, également directeur du Laboratoire Sécurité, Défense et Renseignement. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Luc Dini, président de la commission Sigma 2, qui étudie les cas d'ovnis inexpliqués partout dans le monde au sein de l'Association aéronautique et astronomique, c'est ça, de la France. Bonsoir.
Tout à fait.
Et
bonsoir.
Franck Morin, qui est historien et ufologue. Un ufologue, j'ai découvert ça, c'est un spécialiste des phénomènes ovnis. Bonsoir Franck Morin.
Bonsoir.
Merci beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce sujet passionnant, je n'en doute pas. Le nouveau chef de la NASA, Bill Nelson, a donc annoncé il y a quelques jours qu'il allait mettre en place une commission d'enquête pour étudier l'existence des objets volants non identifiés, les ovnis. Personne, dit-il, personne, pas même les dirigeants de l'agence spatiale, ne sait ce que sont exactement ces objets volants à grande vitesse, détecté par le personnel de l'US Navy. Et là, forcément, on tend l'oreille. Alors, ces propos, ils font suite à un rapport du Pentagone qui va être présenté demain au Congrès américain. Et ce rapport, je crois que vous en avez pris connaissance, Philippe Bomard. Que dit-il exactement ?
Les conclusions du rapport sont très simples. Les conclusions, c'est ni-ni. Donc, en fait, on ne confirme pas l'existence de phénomènes qui soit d'origine extraterrestre, mais en même temps, on dit dans le rapport que on ne peut pas non plus nier qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer, notamment des incursions dans l'espace aéronautique américain. Et donc c'est un peu là le fond du problème, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la nouveauté c'est ça. Tous les rapports jusqu'à aujourd'hui c'était non.
Donc Nini c'est déjà une avancée.
Nini c'est une avancée extraordinaire en termes de d'ouvrir l'hypothèse qu'il est possible qu'il existe des incursions qu'on n'est pas capable d'expliquer. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu, dans les 5 dernières années, beaucoup de ces phénomènes, beaucoup plus que d'habitude. Alors on a beaucoup plus observé, c'est l'un ou l'autre. Mais l'US Navy, en particulier, a commencé à diffuser des informations qui étaient partielles. C'est-à-dire qu'on va reparler avec les autres invités, mais par exemple, on n'a pas la distance. Donc, quand on n'a pas la distance d'un objet qui est filmé, il est impossible de calculer sa vitesse réelle. Et donc, selon l'angle de visée, etc., on sait qu'il y a un objet qui va très vite. Mais vous voyez bien que l'enjeu n'est pas uniquement scientifique, il peut être aussi politique, parce que s'il y a un objet dans l'espace aérien américain qui est à Mach 20 et qui change de direction à Mach 20, et si c'est une puissance étrangère, donc là, on a un problème politique.
On va y revenir, évidemment. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi ce changement de ton de la part du Pentagone. Pourquoi, Philippe Bomard, avoir déclassifié des informations jusque-là encore jamais rendues publiques ? Je ne sais pas, peut-être que...
Ouais. En fait, il y a plusieurs théories possibles. On ne peut pas affirmer l'une ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement de communication qui est intervenu à partir de 2016. Date à laquelle en fait la CIA a émis un certain nombre d'archives. Alors certaines étaient déjà connues, mais en tous les cas il y a une relance de divulgation d'archives, et cela résultait d'ailleurs d'une décision qui avait été prise par le président Obama de lever les restrictions sur un certain nombre de documents.
Il y avait déjà eu une grande avancée à l'époque de Barack Obama. Hein.
Oui, il y a eu en tout cas un certain nombre de documents qui ont été libérés. Mais ce qui s'avère, c'est qu'il y a eu un grand changement dans le rythme de la communication, et notamment par le biais d'anciens du Pentagone qui ont rejoint des firmes privées et qui se sont mis à divulguer et à diffuser des informations. Au départ contestées par le Pentagone, réputées non crédibles et tout ça, et après attestées comme authentiques. Et c'est là qu'on voit cette inflexion avec le point culminant l'an dernier, puisqu'une commission d'enquête a été constituée à la demande donc du Congrès, et qui rend donc commission d'enquête, qui rend son rapport. Voilà,
maintenant. Oui, qui va présenter effectivement son rapport officiellement demain devant le Congrès américain. Le patron de la NASA explique qu'il ne pense pas que les ovnis sont la preuve que des extraterrestres visitent la Terre. Si c'était le cas, dit-il, je pense que je le saurais, mais il admet quand même qu'il serait hâtif d'exclure cette possibilité. Nous ne savons pas si c'est extraterrestre, nous ne savons pas si c'est un ennemi, nous ne savons pas s'il s'agit d'un phénomène optique. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Morin, vous qui, je le rappelle, êtes historien et ufologue ? C'est effectivement ce nini, il est très troublant.
Oui, il est très troublant. Et puisque vous parlez de la NASA, je peux vous parler de quelques incidents qui se sont produits sur les missions de la NASA dans l'espace, comme la mission STS-48 en 1991, ou STS-80 en 96, STS-63 en 95, où on a filmé des objets dont les mouvements étaient inexplicables. À ça s'ajoutent des astronomes et de multiples astronautes qui ont vu des objets inexplicables dans l'espace. J'en ai fait une synthèse dans mon livre qui s'appelle « Énigme spatiale ». Et dans ce qui concerne l'atmosphère, actuellement, ce qui fait l'intérêt du sujet, c'est que vous avez aussi des pilotes qui témoignent à visage découvert dans des grands médias américains. Et là, je peux citer par exemple David Frivor et ses coéquipiers qui, lors de l'incident du Nimitz en 2004, ont vu un objet blanc en forme de tic-tac qui a été enregistré au radar avec des pointes à 39 000 km par heure.
Bon.
Et qui était capable de se déplacer dans toutes les directions, ce qui sont des caractéristiques que ne peut pas reproduire l'aéronautique.
Vous savez quoi, on va continuer d'en parler dans un tout petit instant. Restez avec nous, restez en ligne, surtout Franck Morin, on vous retrouve tout de suite pour poursuivre ce débat sur les ovnis sur Europe 1. A tout de suite. 19h31, on poursuit sur Europe 1 notre débat autour des objets volants non identifiés. Autrefois, ceux qui disaient que les ovnis existaient étaient au pire pris pour des complotistes, au mieux pour des gentils dingues.
Il avait une forme triangulaire, d'un vert très lumineux, avec un liseré blanc autour.
Il avait la forme d'un gros cigare lumineux, de plus de 10 mètres de hauteur, là j'en suis certain.
Ma femme, elle, a vu quelque chose qui aurait eu vaguement, hein, la forme d'une banane. Moi, je pensais à quelque chose d'ovalisé, voyez-vous.
C'est une forme vraiment curieuse, un peu, je vous dirais, comme un ballon de rugby, qui aurait une hernie d'un côté.
Un ballon de rugby qui aurait une hernie d'un côté. On vous a trouvé un petit florilège dans les archives d'Europe 1. On remercie d'ailleurs les gens des archives qui ont travaillé pour nous aujourd'hui. Mais je rappelle que si on parle de ce sujet ce soir, c'est parce que la très sérieuse NASA s'interroge sur ces objets volants non identifiés. Elle vient de déclassifier des documents jusque-là confidentiels. Le Pentagone, en tout cas, qui encourage les pilotes à rapporter toute forme d'apparition mystérieuse. Et ce soir, sur Europe 1, on essaye d'avoir une approche pragmatique hein, sur un sujet trop souvent laissé aux rêveurs ou bien aux sceptiques dogmatiques, les ovnis mythes ou réalité. On en parle toujours avec Philippe Bomard, professeur au CNAM, directeur du laboratoire Sécurité, Défense et Renseignement. Luc Digny, président de la commission Sigma 2, qui étudie les cas d'ovnis inexpliqués partout dans le monde au sein de l'Association aéronautique et astronautique de France. Et Franck Morin, qui est historien et ufologue, c'est-à-dire spécialiste des phénomènes ovnis. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait pour l'instant une seule certitude, hein, c'est qu'il existe bien des phénomènes inexpliqués. Et que l'être humain déteste ne pas comprendre, d'où cette démarche de la NASA. Qu'est-ce que ce rapport du Pentagone, selon vous, va changer, Philippe Bomard?
Ça va changer pas mal de choses. On attend à peu près 120 cas qui vont être révélés, peut-être demain ou après-demain.
Donc c'est un rapport qui va être très concret, on va dire. Voilà, il s'est passé telle chose, tel jour qui a été observé.
Le dernier rapport, c'était 2010, il y a eu une déclassification. Alors, il y a eu une double déclassification, il y avait aussi une déclassification côté CIA. Alors celui-là est accessible en ligne, j'en ai amené quelques exemplaires là avec moi aujourd'hui.
Et donc dans les, le rapport dans les... de la CIA, là, c'est ça?
Oui, vous avez... c'est la déclassification de
c'est
la CIA.
Classe. Ouais. Ouais, c'est classe.
Mais dans ces rapports, il y avait des événements qui étaient surtout des descriptions de contacts ou de rencontres ou de phénomènes visuels. Je pense que la grande différence, c'est qu'on peut s'attendre à avoir, parce que les moyens d'observation sont bien meilleurs maintenant qu'ils étaient il y a 10-15 ans, s'attaquer à l'explication des phénomènes qui ont été, il faut le dire, diffusé par la Navy. Donc c'est le point important. C'est effectivement la Navy qui a commencé, alors on se demande pourquoi d'ailleurs, à déclassifier, à communiquer énormément d'informations extrêmement précises.
Donc ça veut dire que c'est très sérieux. C'est pas effectivement un illuminé avec son télescope qui avait un truc bizarre.
Obama était effectivement le premier président à aborder la question de façon sérieuse, en essayant de lever ce voile de secret de polichinelle, et en se disant, ayons une approche scientifique. Alors bien sûr, il y a un background géopolitique, parce qu'on comprend bien dans le climat de tension actuel avec la Russie et la Chine, si jamais la Russie a réussi à produire des technologies que les Américains ne produisent pas, ça serait embêtant. Donc là, c'est pas simplement un jeu de communication. Il y a aussi un enjeu stratégique de fond sur cette diffusion.
Bien sûr. Quelles sont les différentes options possibles quand on observe comme ça un phénomène, Luc Digny? Ça peut être quoi? Un phénomène optique, un engin ou un objet envoyé de la Terre ou effectivement un engin extraterrestre?
Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure des objets effectivement artificiels envoyés depuis la Terre. Alors ça va du drone. En passant par la lanterne taille, vous savez, qui se déplace en groupe. Alors évidemment, on peut être étonné de voir ça. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Ça peut être des retombées d'étages propulsifs ou de satellites, donc des rentrées atmosphériques. Entre les deux, vous avez, et en repartant du haut, vous avez les rentrées de météorites. hein, qui peuvent être surprenantes. J'en ai vu personnellement, ça surprend un peu. Et puis, vous avez des phénomènes naturels, alors qui sont plus mystérieux, qui ont été invoqués par les recherches britanniques, parce que les Britanniques ont sorti un rapport aussi en 2006, qu'on a analysé. Les Russes ont travaillé sur ces sujets-là. Et alors là, il y a eu une question sur les plasmas atmosphériques.
C'est quoi donc, le plasma
Un plasma, en quelque sorte, c'est une bulle de gaz qui est chauffée, qui est ionisée, et donc qui va émettre de la lumière, et qui peut être soumise à des phénomènes électromagnétiques et se déplacer relativement vite. Cela dit, les astrophysiciens, qui font notamment partie de notre commission, avec lesquels on a discuté, ont un avis, je dirais, sur la limitation en vitesse de ces phénomènes-là, et lié au fait également qu'ils ne peuvent pas changer de direction de façon aussi brutale que les pilotes l'ont décrit. Donc, à partir de là, on peut, dans certains cas, reconnaître des phénomènes naturels, et dans d'autres cas, rejeter les hypothèses en se disant, bien non, ça ne correspond pas, ce n'est pas une rentrée atmosphérique. Une rentrée à Mach 20, Mach 30, d'accord, mais ça ne change pas de direction comme ça.
Donc voilà. La première chose, si je vous comprends bien, c'est d'effectivement d'éliminer tous les événements qui pourraient être des événements naturels, hein, c'est ça?
Exactement.
Philippe Baumard?
Oui, le problème principal étant la décélération, alors c'est ça le mystère en fait. Hein. Le problème n'étant pas l'accélération, parce qu'on arrive toujours à expliquer un passage à Mach 10, Mach 20, mais dans les observations de l'US Navy, ce qui est très déstabilisant, c'est cette décélération brutale hein, d'une vitesse qui... Alors, on n'a toujours pas la distance, donc on verra dans le rapport diffusé par Pentagone demain ou après-demain s'ils vont finalement diffuser les distances pour commencer à lancer un débat scientifique international. Mais si on avait les distances, on serait dans des estimations à Mach 10, Mach 20. Et donc, le passage de Mach 20 à zéro, puis retour à Mach 20, il n'y a aucune structure aéronautique fabriquée par l'homme qui est capable de l'encaisser. Donc, voilà le mystère. C'est la réponse qu'on attend demain. En
fait. C'est la réponse qu'on attend et qu'on aura peut-être ou
qu'on
pas.
On aura peut-être.
Peut-être
vu
pas.
Que les conclusions, c'est nini, je
voilà.
Ne pense pas.
En tout cas, effectivement, si les ovnis se déplacent dans les airs, il est logique que les pilotes d'avions soient les mieux placés pour les observer. C'est vrai que les forces aériennes de nombreux pays, on parle des Américains, mais ont enregistré quand même des témoignages de pilotes qui nous interpellent avec parfois des échos radars inexpliqués. Hein. Luc Dini.
Oui, absolument. Éco-radar inexpliqué et phénomènes lumineux inexpliqués, voire interférences avec leurs équipements. On peut citer deux exemples historiques, pas récents, mais justement, qui posent question vis-à-vis des technologies qui étaient en l'état à l'époque. À Téhéran, en 1976, des pilotes de F-4, donc des avions d'origine américaine, sont envoyés à la rencontre d'un objet, enfin, d'un phénomène inconnu. Une boule de lumière. Bon, le premier avion fait une passe rapide à proximité. Ses équipements électroniques tombent en panne à 2 nautiques. Bon, il s'en va. Le deuxième avion voit 2 objets se séparer en fait de cet objet lumineux. L'un d'eux se rapproche. Il arme sa commande de missile et la radio, les équipements de navigation, la commande de missile tombe en panne. Il fait demi-tour en s'éloignant, ça remarche à nouveau. Voilà un
troublant,
exemple.
Oui, troublant.
Autre exemple, en Grande-Bretagne, en 1956, des pilotes et des observateurs au sol ont vu, avec des radars, visuellement, des phénomènes lumineux pendant plusieurs heures. Voilà.
Bon, Franck Morin, je ne vous oublie pas. Hein. Je rappelle que vous êtes ufologue. Et alors vous êtes remonté encore plus loin que ce dont vient de nous parler Luc Dini, puisque vous avez écrit « Les mystères du phénomène OVNI de la préhistoire à nos jours » aux éditions de la Vallée Heureuse. Ça veut dire qu'à la préhistoire, déjà, on s'intéressait à ces phénomènes inexpliqués?
La préhistoire, c'est un peu plus flou, puisqu'on voit de temps en temps dans d'anciennes cavernes des silhouettes humanoïdes ou non humanoïdes, mais on n'a aucune raison véritable ou origine qui puisse le justifier. Ça pourrait être du chamanisme, des proto-religions. Les phénomènes aérospatiaux commencent sous l'Antiquité, parfois c'est répertorié dans des vieux livres, mais les sources sont difficilement vérifiables. C'est surtout, disons, à partir du 19e siècle, que là, on a une vague de dirigeables mystérieux aux États-Unis qui s'appelait les Airship en 1896, où des dirigeables projetaient des faisceaux lumineux à une époque où on ne les utilisait pas, où le record du monde était de 20 km par heure et 30 km d'autonomie. Et ces dirigeables mystérieux étaient capables de faire plusieurs centaines de kilomètres. À la même époque, des astronomes relèvent des météores à comportement très curieux. Et puis après, plus tard, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale où des pilotes vont rapporter des sphères d'apparence métallique ou colorée qui poursuivent les avions. Au moins entre 700 km par heure, et qu'on appelle les Foo Fighters.
Et c'est là que ça commence à devenir vraiment sérieux, où on se dit, tiens, il y a des choses bizarres, quoi.
Oui, et ce qui est sérieux, c'est qu'ils nous décrivent un objet sphérique. Or, même de nos jours, on ne pourrait pas produire un objet sphérique capable de pourchasser des avions de chasse. On construit bien des drones avec des armatures métalliques. Ils sont à hélice, mais ils vont pas très vite. Et après, le premier témoignage très médiatisé était celui du pilote Kenneth Arnold, le 24 juin 1947, qui décrit une formation d'un objet en forme de croissant suivi par 8 objets ronds et avec une pointe à l'extrémité. Et c'est de là qu'est né le terme disque volant ou soucoupe volante. Il estime leur vitesse à 2000 km par heure. Et c'est là le problème, c'est qu'à l'époque, le meilleur chasseur faisait 1000 km par heure, donc deux fois le record du monde. Un problème de taille, puisque même de nos jours, on peut toujours pas produire des disques volants dépassant Mach 1. Et aussi, une curiosité, c'est que cette formation d'appareil basculait sur la tranche au même moment, comme s'il était synchronisé.
Oui, donc tout ça, effectivement, n'est pas récent et tout ça est troublant depuis déjà un petit moment. On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. À tout de suite sur Europe 1. Boules de lumière, engins volants, partout dans le monde, des phénomènes spatiaux mystérieux sont observés. On a vu tout à l'heure que certains sont explicables. Certains ont une origine militaire, d'autres sont liés à des phénomènes météo ou bien naturels, mais d'autres encore ne trouvent aucune explication. Toujours à mes côtés ce soir, Philippe Beaumard, professeur au CNAM et directeur du laboratoire Sécurité, Défense et Renseignement. Luc Digny, président de la commission Sigma 2 qui étudie les cas d'OVNI inexpliqués au sein de l'association aéronautique et astronautique de France. Et Franck Morin qui est historien et ufologue spécialiste des phénomènes OVNI. En tout cas, preuve que ce sujet qui peut prêter à sourire est important, très important. Les services de renseignement du monde entier s'y intéressent. La NASA, on vient d'en parler, les États-Unis, mais aussi les renseignements français, la DGSE également. Et tout ça, finalement, Luc Digny, ça ne date pas d'hier. Hein.
Alors, pour ce qui est de l'intérêt de la DGSE sur le sujet, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que la France a mené les premières recherches répertoriées à partir des années 50. En fait, il y avait une instruction ministérielle qui a été donnée à l'armée de l'air et à l'ensemble des forces armées pour réunir les informations sur les phénomènes qui étaient appelés à l'époque des mystérieux objets célestes. Et de fait, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées, des signalements qui ont été faits par des bases aériennes qui ont détecté des échos radars bizarres parfois, etc. Et c'est le ministre de la Défense, Robert Gallet, qui en 1974, au micro de Jean-Claude Bourret, a expliqué qu'effectivement, il y avait des phénomènes qui étaient observés qu'on ne comprenait pas. Donc en France, mystérieux objets célestes, oui. Mystère sur le sujet, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et puis un département d'enquête a été créé en 1977, qui dépend du CNES, qui s'appelle le GEPAN, dont la mission n'est pas vraiment d'étudier ces phénomènes-là, mais plutôt de mener des enquêtes de terrain en lien avec la gendarmerie et d'essayer d'apporter des réponses aux témoins. Donc vous voyez les témoignages que vous avez passés tout à l'heure, eh bien en France, reçoivent a priori bon accueil, que ce soit de la gendarmerie ou du GEPAN, et ils cherchent à trouver des informations. Cela
dit, si j'appelle en disant « j'ai vu une forme bizarre dans le ciel, dans mon jardin hier soir », j'appelle et on va me prendre au sérieux.
On va
me demander des détails, etc.
Absolument. Ah oui. Vous aurez un formulaire à remplir, et suivant la multiplicité des témoignages qui contribuent au fond à manifester l'étrangeté du sujet, il y aura une enquête qui sera diligentée. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ils ne trouvent pas réponse à toutes les questions. Il y a à peu près 5% de cas irréductibles et c'est précisément ceux auxquels on s'intéresse dans la commission Sigma 2.
Ouais. Philippe Beaumard, effectivement, les États-Unis sont très en pointe, mais les autres pays du monde s'intéressent aussi beaucoup à ces phénomènes inexpliqués.
Toutes les grandes nations du monde s'y intéressent. Alors pour deux raisons. La première, c'est la protection et la sûreté de l'espace aérien et aujourd'hui de l'espace au sens littéral du terme, puisqu'en fait la sécurité spatiale est un enjeu stratégique qui a été annoncé par le gouvernement Biden comme une priorité. Pourquoi ? Parce que depuis une dizaine d'années, on a un retour de l'hypersonique avec des armements qui sont plus petits en taille. Donc on n'est plus dans l'équilibre stratégique avec des affrontements entre des 100 kilotonnes, 200 kilotonnes. On est plutôt sur des armements très légers. Mais bon, déjà une tonne, voilà. Et ces essaims d'armement hypersonique sont très inquiétants. Et c'est vrai que les Russes ont beaucoup investi, donc la sécurité spatiale est de retour. Alors, ce n'est pas l'initiative de sécurité spatiale de Reagan, mais on est sur une course spatiale qui revient avec des intérêts privés. On l'a vu avec les milliardaires qui...
Ouais, on a fait tout un débat là-dessus, c'était passionnant d'ailleurs sur Europe 1, effectivement. Mais là, on parle vraiment de la sécurité spatiale. Hein. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la parano aussi des Américains ? Pardon, mais...
Oui, parano, mais bon, c'est... Après, je trouve que c'est une curiosité qui est très saine. D'abord, c'est très bon pour l'esprit scientifique d'être sceptique et de se poser des bonnes questions. Hein. Il y a dans la population totale des exoplanètes, il y a... Donc, si vous savez comment on découvre les exoplanètes, en fait, on analyse les spectres visibles et puis on dit, tiens, quand on passe devant le Soleil, un objet qui passe le Soleil, on se dit, tiens, selon le spectre, on peut savoir si c'est un candidat à l'habitat et à la vie. Et si on inverse la problématique, en fait, il y a 29 de ces exoplanètes qui peuvent nous voir. Donc, je trouve ça assez amusant, l'idée que finalement, nous, on peut en voir quelques milliers, mais 29 d'entre elles peuvent nous voir. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser la question. Et pour les jeunes et pour l'esprit scientifique, c'est un bon questionnement. Alors, sécurité spatiale, ce qui s'est passé avec l'US Navy, c'est quelque chose qui peut soulever des questions d'un point de vue de la sécurité nationale. Si vous avez un pilote de chasse qui voit un objet qui a des performances qui sont inexplicables et très supérieures aux performances les plus avancées de la Navy américaine, il y a de quoi poser un problème de sécurité sans être fondamentalement paranoïaque.
Donc ça pourrait être effectivement des objets espions, pour dire les choses très clairement ?
Non, ça pourrait être un pays étranger qui a fait une meilleure R&D que celle des États-Unis. Ouais. Je pense que la motivation profonde hein, des gouvernements, c'est celle-là d'abord.
Et alors, quel pays étranger, hormis les États-Unis, aurait les moyens de faire ça ?
Aujourd'hui,
les Russes, vous en avez parlé ?
Il y a deux grands candidats,
les Chinois ?
Il y a les Russes et la Chine, mais voilà.
Bon. Franck Morin, vous êtes vous-même ufologue, et ça m'a interpellé ce terme en préparant cette émission. Spécialiste des ovnis, vous êtes nombreux dans le monde ?
Oui, il y en a des milliers. Et en France, nous avons différentes associations privées, par exemple. D'ailleurs, certaines se sont regroupées sous le nom du CIPO, Collectif d'intervention sur le phénomène OVNI, dont vous entendrez peut-être parler parce qu'on va faire une communication nationale la semaine prochaine en envoyant un dossier sur l'état de la situation en France et à l'étranger, et ainsi que des sources très détaillées sur ces rencontres de pilotes et bien d'autres cas de grandes vagues OVNI.
Il faut faire des études, pardon de vous poser cette question, mais il faut faire des études pour être ufologue, il y a des écoles d'ufologues ?
Comme par définition, c'est l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il n'y a pas d'école ou d'académie pour ça, mais ça nécessite d'avoir des bases en aéronautique, de s'intéresser à tout ce qui vole, que ça peut être des oiseaux, des montgolfières, des avions, ouais. Pour éviter les confusions, les phénomènes naturels, les météores.
Mais pour en revenir aux ovnis, effectivement, dans votre livre, vous mettez en perspective des faits étayés et votre conclusion, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Vous en êtes persuadé ?
Oh, c'est ni une croyance ni une conviction. C'est-à-dire, ce que je constate, c'est sûr, il y a une répétitivité de ce genre de vagues, d'intrusions, de manifestations qui sont quand même bien documentées depuis plus d'un siècle. De nos jours, on a des radars qui sont beaucoup plus perfectionnés, qui ont de l'infrarouge et qui certifient les faits. On a un catalogue qui s'appelle le 8 Years of UFO Sighting.
Mais donc votre réponse, c'est oui, on n'est pas seul dans l'univers.
il y a de fortes probabilités qu'il y ait une autre intelligence qui nous visite.
Vous êtes d'accord,
messieurs ? Les faits semblent l'indiquer, on reparlera de ça, oui.
Oui, non, Luc Guigny, Philippe Beaumard, vous êtes d'accord, on n'est pas seul ?
Je dirais les choses différemment. À l'autre bout de l'univers, je n'en sais rien. Il faut poser la question aux astronomes et aux gens qui font de la recherche dans ce domaine. La question, c'est qu'il se produit effectivement des phénomènes qui ne sont pas explicables par la physique connue dans notre proche banlieue.
Ça on a bien compris.
Que les scientifiques se penchent sur la question.
Voilà. Vous êtes d'accord. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné ce soir pour ce débat. Philippe Bomard, Louis Guigny et Franck Morin.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, on ouvre les archives d'Europe 1. On va remonter, rien à voir, hein, en 1984, 24 juin 1984, la grande manifestation de soutien à l'école libre. À tout de suite. 19h53, comme tous les soirs, on va maintenant plonger dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Et ce soir, bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Isabelle.
Ce soir, retour en 1984, l'année où j'ai passé mon bac, mais il ne faut pas le répéter. 24 juin 1984, ce jour-là se tient l'une des plus grandes manifestations que la France ait connue. Plus d'un million de personnes défilent contre le projet de loi Savary qui vise à rapprocher école publique et école privée. C'est ce que l'on nommera la mobilisation pour l'école libre.
Oui, et ce projet, il était dans le programme de François Mitterrand dès 1981. Il voulait la création d'un service public unifié laïque de l'éducation. Mitterrand élu, Alain Savary, ministre de l'Éducation, planche sur la réforme. Il a dans le viseur l'enseignement privé. 3 ans de consultation. Début 1984, le gouvernement dépose son projet de loi. L'un des points litigieux, c'est l'intégration des enseignants du privé dans le système public, comme le raconte notre journaliste Gilles Rabin sur Europe numéro 1.
Le deuxième point encore litigieux concerne la fameuse titularisation des maîtres, dont bien entendu les tenants de l'école privée ne veulent pas entendre parler. Première disposition, statut de contractuel de droit public à tous les maîtres du privé reconnus aptes à l'enseignement.
Le sujet est explosif. L'école catholique regroupe à l'époque près de 2 millions d'élèves dans 10 000 établissements. Et comme si cela ne suffisait pas, la gauche est en perdition. Après le tournant de la rigueur de 1983, elle voit donc dans ce texte l'opportunité de se refaire une conscience. Les députés socialistes vont l'amender et le durcir. Le 25 mai 1984, Jacques Chirac appelle à manifester à l'Assemblée nationale pour la liberté d'enseignement.
Tous les Français qui ressentent la liberté de choisir l'école de leurs enfants comme un droit imprescriptible et sacré, de combattre cette réforme.
Et forcément, Victor, c'est une occasion rêvée pour la droite.
Oui, et le RPR ne va pas la rater. Dès le départ, les rassemblements se multiplient. En janvier, 100 000 personnes à Lyon. En février, 200 000 à Rennes. Puis 250 000 à Lille. En mars, 600 000 à Versailles. Mais la grande manifestation, le point d'orgue de la mobilisation, c'est fin juin, trajet République-Bastille à Paris. C'est une semaine après les élections européennes qui voient le parti de Jacques Chirac s'imposer largement. Plus de 43% des voix, le PS est à 20. Le 24 juin, c'est historique, entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues de Paris pour défendre l'école libre. La droite a pris la Bastille.
J'ai moi-même été élevée à l'école laïque. Mes parents ont choisi opposer à l'école privée. Et malgré tout, je suis là aujourd'hui parce que je respecte profondément la liberté d'enseignement et d'idées et de croyances de chacun.
Dans le cortège, Jacques Chirac, Simone Veil, Valéry Giscard d'Estaing, des représentants de l'Église et même des people comme Michel Sardou. Mais surtout, ce sont des parents venus par quart de toute la France. François Mitterrand est obligé d'intervenir.
Il faut savoir se réconcilier. Je lutte de toutes mes forces pour que les Français se comprennent et fassent triompher leur raison, celle de l'esprit.
Plus d'un million de personnes quand même dans les rues pour l'école libre. Et le texte arrive au Sénat, alors tenu par la droite. Les sénateurs vont réclamer un référendum. François Mitterrand est en mauvaise posture.
Si bien que le 12 juillet 1984, sans prévenir Savary, Mitterrand annonce le retrait du projet de loi. Il va tenter une pirouette autour du référendum. Finalement, Savary démissionne, entraînant avec lui le Premier ministre Pierre Mauroy. Ils seront remplacés respectivement par Jean-Pierre Chevènement à l'éducation et Laurent Fabius à Matignon. 2 ans plus tard, ce sera la cohabitation, Chirac Premier ministre. De ces manifestations, il restera aussi un tube, une chanson de Michel Sardou, spécialement écrite à l'occasion, Les deux écoles.
J'étais des deux écoles et ça n'a rien changé. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé. On priait la Madone.
Vous êtes sûr que c'est un tube ? C'est une chanson en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci Victor Chabert.
Merci.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Julien Pierce et puis le foot, bien sûr, comme tous les soirs, pendant 7 euros avec vous, Lionel Rosso. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Isabelle.
Alors, quel est le programme ce soir?
Pas de match ce soir, vous le savez, il faut souffler un tout petit peu après les émotions d'hier soir, mais on va revenir évidemment sur la première place des Français dans leur groupe, la qualification pour les huitièmes de finale et le match nul contre le Portugal. Se projeter sur la confrontation face à la Suisse, ce sera lundi prochain à suivre sur Europe 1 à partir de 21h et on va débattre évidemment avec nos experts, Guy Roux, Aline Riera, Jimmy Algerino, Marc Libra et notre invité VIP, le réalisateur Philippe Guillard. Voilà, un
bravo,
joli programme.
Parce qu'il paraît que vous avez fait le bon pronostic hier soir, Lionel.
Absolument, j'avais donné 2-2.
Bravo.
Mais personne ne m'écoute en général.
Mais si,
dans cette
je vous écoute. Alors dites-moi, lundi, la France va gagner.
3-0.
Ah, carrément. Chouette. Très bien. Très bien.
Voilà.
Belle émission à vous, Lionel. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain, 18h. D'ici là, on écoute Le Monde Changé, bien sûr.